Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 28 septembre 2017. John Linden en direct du studio 9 de VOA Africa à Washington. Au sommaire ce soir, en RDC, calme attendu à Uvira après les nouveaux combats à l'arme lourde ce matin entre l'armée congolaise et les Maïmaï du général Yaku Tumba. Au Kenya, le pouvoir veut amender la loi électorale. L'opposition dénonce cette volonté et appelle à des manifestations. La Guinée se souvient du 28 septembre 2009. Plus de 150 personnes avaient trouvé la mort au stade de Conakry. Le chef du gouvernement, le chef du groupe État islamique appelle ses combattants à résister. Aboubakar al-Baghdadi s'exprime dans un enregistrement audio diffusé ce jeudi. Et puis, nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Blanche Sanou pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le point suite à l'attaque des Maïmaï Yaku Tumba en territoire d'Uvira. Les forces armées de la RDC ont délogé les assaillants dans plusieurs villages. La vie reprend peu à peu son cours normal, nous dit Ernest Mouhiro, notre correspondant à Bukavu.
Une nette accalmie règne dans la cité d'Uvira depuis le début d'après-midi de ce jeudi. Tôt le matin, cette population s'est réveillée dans le coup des balles lorsque les Maïmaï Yaku Tumba tentaient de prendre d'assaut le pont Kalundu avec quatre pirogues motorisées pleines d'hommes armés. Selon l'administrateur du territoire d'Uvira, Milenge Matundania, la contre-offensive de l'armée régulière a bouté les Maïmaï en dehors de la cité. Milenge confirme ce soir que tout le territoire d'Uvira jusqu'à Makobola est sous le contrôle de l'armée régulière. En début d'après-midi, le véhicule de commerce coincé à Makobola depuis le dimanche 24 septembre ont repris timidement les trafics vers Uvira, les tronçons étant libérés. Le mitin de la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo opère sur plusieurs axes. Toute la presqu'île d'Ubuari et d'autres localités telles que Nemba, Kazimia sont contrôlées par les éléments Maïmaï, affirme la société civile locale. De Bukavu au sud Kivu, Ernest Mouhiro, VOA Afrique.
Huit ans jour pour jour après le massacre au stade de Conakry, des dizaines de personnes, dont de nombreuses femmes, se sont rassemblées jeudi dans la capitale guinéenne. Le 28 septembre 2009, au moins 157 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées par des militaires dans un stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants au chef de la junte de l'époque, Moussa Dadis Camara, selon une commission d'enquête de l'ONU. Nous y consacrerons un dossier en seconde partie. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé aujourd'hui d'envoyer au Burundi trois experts alors que les Occidentaux réclament le renouvellement du mandat de la commission d'enquête de l'ONU qui n'a pas été autorisée à se rendre sur place. Les experts auront pour mandat de travailler en coopération avec le gouvernement en vue de collecter les informations, déterminer les faits et circonstances des violations des droits de l'homme. Au Cameroun, deux soldats de la force multinationale mixte, une coalition régionale qui lutte contre les djihadistes nigérians de Boko Haram, ont été tués aujourd'hui dans l'explosion d'une mine dans l'extrême nord du pays, selon des sources sécuritaires. Nigeria, on apprend ce jeudi que trois personnes ont été tuées et des villages entiers brûlés dans un raid mené par le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays. L'information a été révélée par une source officielle locale. Toujours au Nigeria, un leader de l'opposition a annoncé ce jeudi son intention d'être candidat à l'élection présidentielle de 2019. Peter Ayodele Fayose, gouverneur de l'État d'Ekiti, devient ainsi le premier à se lancer ouvertement dans la course à la magistrature suprême. En Somalie, au moins 7 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées jeudi dans un attentat à la voiture piégée près d'un marché de Mogadiscio. L'explosion a eu lieu le long d'une route très fréquentée près du marché d'Amarwen, un quartier où des attentats revendiqués par les insurgés islamistes Shebab ont déjà eu lieu par le passé. Les Shebab affiliés à Al-Qaïda combattent depuis 2017. Depuis 2007, autant pour moi, le gouvernement central somalien soutenu par la communauté internationale. Au Kenya, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations pacifiques. Elle s'insurge contre la volonté du parti au pouvoir de modifier en urgence la loi électorale en vue de la présidentielle du 26 octobre, un scrutin ordonné par la Cour suprême du pays après l'annulation de la précédente élection. Les précisions de Jacques Aristide.
Cette nouvelle polémique est une étape de plus dans le dialogue de sourds entre les politiciens des deux bords. Le parti au pouvoir du président Uhuru Kenyatta a enclenché ce jeudi un processus législatif accéléré pour amender la loi électorale afin d'en gommer ce qu'il appelle les lacunes. L'opposition estime que ces modifications reviendraient à rendre légales les irrégularités et illégalités soulevées par la Cour suprême dans son jugement le 1er septembre dernier. Pour Raila Odinga, il s'agit d'une attaque en règle contre la démocratie et la constitution du pays. Il a appelé à des manifestations dans l'ensemble du pays, réitérant un précédent appel qui avait été peu suivi. La démarche a conduit l'opposition à claquer la porte des pourparlers en cours avec la commission électorale en vue d'aplanir les différends entre les camps rivaux et de préparer la nouvelle présidentielle. Des responsables religieux se sont également exprimés publiquement pour condamner le projet du parti au pouvoir.
Au Tchad, un Mirage 2000 s'est écrasé au décollage sur la base de N'Djamena. L'équipage a alors dû s'éjecter. Le pilote est indemne, mais le navigateur a été blessé à une jambe, d'après l'armée de l'air. Retour sur la mort des deux casques bleus néerlandais l'an dernier dans le nord-ouest du Mali. Des enquêteurs néerlandais dénoncent de sérieux manquements qui ont mené à l'explosion accidentelle d'un mortier lors d'un exercice à Kidal. Le bureau d'enquête pour la sécurité a découvert que les militaires utilisaient des stocks de vieux obus achetés en 2006 dans l'urgence avec l'aide du département américain de la défense pour la mission néerlandaise en Afghanistan sous l'égide de l'ONU. La marine libyenne a menacé mercredi de saisir les bateaux d'ONG naviguant près de ses eaux pour secourir des migrants sans autorisation préalable après un incident qu'il a opposé à une ONG allemande. Mercredi matin, les gardes-côtes libyens ont abordé le navire de l'ONG allemande Mission Lifeline qui venait de secourir 52 personnes pour sa première opération dans cette zone.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, les enquêtes sur une possible influence russe dans l'élection présidentielle de 2016 se poursuivent. Aujourd'hui, c'est au tour des représentants de Twitter d'être entendus par les membres des commissions sur le renseignement du Sénat et de la Chambre. Nathalie Barge.
Les sessions à huis clos suivent des séances d'information similaires début septembre avec Facebook, qui a accepté de fournir aux législateurs 3000 annonces liées à la Russie, impliquant des questions sociales et politiques. Les commissions examinent la propagation de fausses nouvelles et si quelqu'un aux États-Unis a aidé à cibler certains utilisateurs. Dans le cas de Twitter, cela inclut l'examen des comptes de bots mis en place pour diffuser rapidement et automatiquement des informations. Twitter respecte profondément l'intégrité du processus d'élection, pierre angulaire de toutes les démocraties, et continuera à renforcer sa plateforme contre les robots et autres formes de manipulation qui enfreignent nos conditions d'utilisation, a déclaré le géant californien. Les commissions de renseignement de la Chambre et du Sénat prévoient des audiences publiques et ont invité Facebook, Twitter et l'entreprise mère de Google, Alphabet, à comparaître en octobre et début novembre.
Nous y reviendrons en partie magazine. Toujours ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a assoupli des restrictions en matière de transport maritime pour accélérer l'aide vers Porto Rico, ravagée la semaine dernière par l'ouragan Maria. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'assouplissement des restrictions entre immédiatement en vigueur, selon Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif américain. Cet allègement doit permettre d'acheminer l'aide à Porto Rico, qui manque d'eau potable, d'électricité et de carburant. Les opérations de déblaiement sont également lentes à se mettre en place. Depuis un siècle, une loi requiert que les marchandises transportées entre ports américains le soient sur des navires américains exploités par un opérateur américain. L'objectif est d'empêcher les navires étrangers d'acheminer de l'aide aux États-Unis. Donald Trump doit se rendre mardi prochain à Porto Rico. Le président est accusé de considérer les 3,4 millions d'habitants de l'île comme des citoyens de seconde zone, les Portoricains ayant la nationalité américaine mais pas le droit de vote. Selon ses détracteurs, l'aide fédérale a été rapide pour le Texas et la Floride, touchés par les ouragans Harvey et Irma, fin août et début septembre.
Le chef du groupe État islamique Aboubakar al-Baghdadi, s'exprimant dans un enregistrement audio présumé diffusé aujourd'hui, a appelé ses combattants acculés de toutes parts en Syrie et en Irak à résister face à leurs ennemis. On ignore la date d'enregistrement de ce discours diffusé par Al-Furqan, la maison de production de l'État islamique qui relaie les enregistrements et vidéos de l'organisation djihadiste la plus redoutée au monde. Aboubakar al-Baghdadi s'en est pris aux nations infidèles et en premier lieu l'Amérique, la Russie et l'Iran, qui mènent avec leurs alliés sur le terrain des offensives séparées contre le groupe ultra-radical, lui infligeant une série de revers en Syrie, en guerre et en Irak voisin. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Blanche Sano.
La compagnie Ivoire Angel a lancé un fonds d'investissement en Côte d'Ivoire, une initiative visant à financer les projets de start-up, a expliqué lors d'une cérémonie à la Chambre d'industrie et de commerce de Côte d'Ivoire à Abidjan, le fondateur de la structure, l'homme d'affaires canadien Jean-Marc Larouche. Son équipe, a-t-il précisé, évaluera les projets d'affaires innovants et à fort potentiel commercial dans tous les secteurs et les financera à hauteur de 5 à 250 millions de francs CFA. Au Sénégal, le prix du kilogramme de farine de blé est resté stable selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques. En juillet 2017, cette denrée alimentaire s'est échangée à 413 francs CFA. Les prévisions de septembre 2017 du département américain de l'agriculture tablent sur une offre mondiale de blé à 1,7 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018. Des représentants d'écosystèmes aéronautiques marocains vont à la rencontre du marché japonais. Une rencontre se tient à Nagoya, au Japon, entre les acteurs du secteur aéronautique du 26 au 28 septembre courant. Selon APANews, cet événement est une occasion majeure pour la délégation marocaine de rencontrer une partie des fournisseurs de Boeing pour les inciter à venir s'installer au Maroc, mais aussi de créer des partenariats stratégiques avec les acteurs clés de l'industrie aéronautique.
Et Nicolas Pineau nous a rejoint dans ce studio, c'est pour parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par le Bayern Munich qui limoge son entraîneur.
Eh oui, la débâcle 3-0 contre le Paris Saint-Germain a précipité sa chute. Carlo Ancelotti, l'entraîneur aux trois Ligues des Champions, a été limogé aujourd'hui par le Bayern Munich après seulement une saison et deux mois à son poste. Les performances de notre équipe depuis le début de la saison ne correspondent pas à nos attentes, a tranché le patron du club, Karl-Heinz Rummenigge, dans un communiqué. Le match à Paris a clairement montré que nous devons en tirer les conséquences, a-t-il ajouté. On rappelle, John, que le Bayern est actuellement troisième de la Bundesliga à trois points du leader Dortmund. C'est l'adjoint de Carlo Ancelotti, l'ancien international français et star du Bayern, Willy Sagnol, qui prend l'intérim de l'équipe.
Et on jouera pour la Ligue Europa ce jeudi.
Eh oui, des matchs ont déjà eu lieu à Astana, au Kazakhstan. Match nul, un but partout avec le Slavia de Prague. Quelques minutes de jeu qui restent entre Arsenal et le Bate Borisov. Les Anglais qui mènent 4 buts à 2, notamment le doublé de Théo Walcott. Salzbourg-Marseille 0-0. Saint-Pétersbourg qui pour le moment mène 3 buts à 1 devant la Real Sociedad. Et puis à suivre tout à l'heure à 20h temps universel, le Maccabi Tel Aviv contre le Villarreal, le Partizan de Belgrade contre le Dynamo Kiev, Braga qui accueille Istanbul-Başakşehir d'Emmanuel Adebayor, le Milan AC qui reçoit la modeste équipe croate de Rijeka, la EK Athènes contre l'Austria de Vienne et enfin Lyon contre l'Atalanta Bergame.
Et pour terminer, Nicolas, report du match Supersport United Club Africain.
Eh oui, la rencontre des demi-finales de la Coupe de la Confédération, initialement prévue samedi au stade Lucas Mastopisis Moripe de Pretoria, se disputera finalement dimanche au même lieu et même heure. Cette reprogrammation, John, fait suite à des problèmes d'ordre technique ayant retardé le voyage de la délégation tunisienne en Afrique du Sud.
C'était le sport, c'était Nicolas Pineau, merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui présenté par John Lyndon. Place à présent au dossier du jour et on commence par la Guinée. 8 ans jour pour jour après le massacre au stade de Conakry le 28 septembre 2009, au moins 157 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées par des militaires dans un stade de la capitale guinéenne où étaient rassemblés des milliers d'opposants au chef de la junte de l'époque, Moussa Dadis Camara, selon une commission d'enquête de l'ONU. À ce jour, toujours pas de procès, les victimes s'impatientent et demandent sa tenue dans les meilleurs délais. Une journée de commémoration a été organisée ce jeudi à Conakry. Sur place, le compte-rendu de Zakaria Camara.
C'était en Guinée.
Triste anniversaire et surtout une reconstitution des faits difficile à regarder. Une scène des viols replonge les victimes dans la douleur, certaines inconsolables. 8 ans après les massacres, l'attente semble longue pour les victimes.
Moi, j'étais victime, j'étais dans le stade, tout ce qui s'est passé, je ne peux pas tout citer ici, mais franchement, ça m'empêche de dormir. 8 ans de retard, 8 ans de s'endormir, 8 ans partout, on ne peut pas se circuler comme on veut. On veut la liberté, on veut la justice, tout ce qu'on demande.
L'association des victimes, parents et amis s'indigne et menace de battre le pavé, mais pas seulement, si elle n'obtient pas de la justice guinéenne la date du procès. Asmao Diallo, présidente.
L'ONG Avipa serait dans l'obligation de saisir la Cour de justice de la CEDEAO afin que celle-ci interpelle l'État guinéen à faire réparation vis-à-vis des victimes du 28 septembre 2009.
La justice guinéenne a promis de boucler le travail de poule des juges avant le 31 octobre prochain. Elle avait annoncé fin septembre pour la fin de l'instruction. Précision de Malal Diallo de l'OGDH.
La commission rogatoire internationale avait été envoyée en France pour entendre M. Sékouba Konaté, qui était à l'époque des faits, ministre de la Défense, et de surcroît, le monsieur qui, par un jeu médiatique, avait déclaré publiquement qu'il a déposé une liste de complices au niveau de la Cour pénale internationale.
La Fédération internationale des droits de l'homme a exprimé sa solidarité avec les victimes guinéennes. Elle appelle à plus de sérénité. Paul Sapou, secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des droits de l'homme.
S'il vous plaît, commençons par nous serrer davantage les coudes et éviter que nous puissions poser des actes qui pourraient nourrir d'autres actes qui relèvent de manœuvres dilatoires.
Pour certaines victimes, l'urgence est sanitaire.
Avec mon tête, c'est qu'on a battu avec le fusil. Mon tête, ça tourne, chaque fois, ça tombe. Tout le monde connaît ça. Donc, ils sont parlé à faire de justice, justice. Avant justice, moi, je demande le Zang nous aide à avoir médicaments d'abord.
Plus de 150 manifestants avaient été tués à Conakry et une centaine de femmes violées selon une enquête des Nations Unies. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
La République centrafricaine a connu un regain de violence depuis plusieurs mois. Que faire pour mettre fin aux violences qui sévissent dans ce pays? Dans un rapport rendu public, le Centre d'analyse internationale Crisis Group propose, entre autres, de s'attaquer aux finances des groupes armés qui se battent pour le contrôle des ressources naturelles. Pour analyse, Yacouba Ouédraogo a joint Thibaut Lesueur, consultant senior et analyste pour l'Afrique centrale à International Crisis Group.
L'idée phare du rapport, c'est de dire qu'en effet, il y a une violence qui augmente de manière très sensible et très rapide depuis la fin de l'année 2016 et que malheureusement, face à la violence des groupes armés, il y a une réponse internationale et nationale qui est insuffisante.
Quelles sont les causes de ce regain de violence-là, selon votre rapport?
Déjà, il y a le fait que les groupes armés soient toujours très bien armés et contrôlent à peu près les 3/4 du territoire centrafricain, avec en toile de fond cette idée de contrôler les ressources, notamment les ressources minières, mais aussi le café, le bétail. Et puis il y a des causes qui sont beaucoup plus identitaires, pour beaucoup de Centrafricains par exemple, que les musulmans sont étrangers puisqu'associés à la CELECA.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces violences-là?
Il faut déjà établir un rapport de force avec les groupes rebelles. Hein. Pour l'instant, la MINUSCA, qui est composée de 12 000 hommes, n'arrive pas à être dissuasive vis-à-vis de ces groupes armés. Et donc, il n'y a pas de rapport de force institué qui les pousse à négocier.
Vous avez fait cas de la volonté des groupes armés de contrôler les ressources naturelles. Qu'en est-il exactement?
Sur toute la partie est du pays, on voit des groupes armés qui contrôlent à la fois les zones minières, mais qui contrôlent aussi différents circuits économiques. Ça peut être le café, dans d'autres endroits, c'est le bétail. Hein. Le bétail est une des ressources importantes pour les groupes armés. Et donc, ce sont des trafics qui existent depuis maintenant 10-15 ans, qui existaient bien avant la crise, et qui permettent à ces groupes armés de se financer et de recruter des jeunes localement.
Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut assécher les circuits de financement des groupes armés, c'est-à-dire lutter contre les trafics qui sont rémunérateurs des groupes armés, par exemple en déployant des casques bleus sur les sites miniers où ces groupes armés se servent, ou en essayant de contrôler un petit peu les circuits d'écoulement du bétail, par exemple, qui sont volés par les milices locales.
Le président Faustin Archange Touadéra et des autorités onusiennes demandent une augmentation du nombre de casques bleus. Cela pourrait-il, selon vous, être suffisant pour arrêter les violences?
Ce ne sera pas suffisant. Alors, c'est important, en effet, d'avoir un renforcement capacitaire, donc à la fois en hommes et en matériel. Mais le plus important, c'est d'avoir des contingents qui soient capables d'exercer une pression sur les groupes armés. Donc, il faut à la fois plus de contingents, mais aussi des contingents qu'on a choisis, dont on sait qu'ils ont des règles d'engagement qui sont plus importantes.
Que suggérez-vous politiquement aux autorités centrafricaines?
Elles ne peuvent pas lutter contre les groupes armés, malheureusement, puisqu'il n'y a pas d'armée centrafricaine. Donc, il faut qu'elles travaillent sur le domaine de la réconciliation. Ça passe par des mesures très symboliques. Il faut que le président Touadéra aille un peu à l'encontre de sa base électorale, en répétant par exemple que les musulmans sont centrafricains, qu'ils ne sont pas étrangers, et par exemple en organisant des programmes de formation pour des populations qui viennent de tout le pays pour constituer une nouvelle élite administrative.
Voilà, c'était donc Thibault Le Sueur, joint à Bruxelles.
Et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur l'actualité migratoire de l'administration Trump. En janvier, Donald Trump décidait d'interdire le territoire américain aux ressortissants de 6 États musulmans afin de prévenir d'éventuels risques terroristes. Le Tchad, la Corée du Nord et le Venezuela viennent d'être ajoutés à cette liste. Le Soudan vient d'en sortir. Comment interpréter cette mesure? Comment sortir de cette liste noire? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h en temps universel.
En Angola, le tout nouveau président João Lourenço a prêté serment devant un parterre de chefs d'État africains à Luanda. Il remplace José Eduardo dos Santos après 38 ans de règne sans partage. S'agit-il d'un vrai changement dans la conduite des affaires du pays? Idriss Fall a joint à Luanda le député Raoul Danda, vice-président de l'UNITA, principal parti d'opposition angolais.
Pour moi, quand il y a continuité, il n'y a plus changement. Parce que s'il faut changer, on ne continue pas à faire la même chose. Je ne trouve pas que João Lourenço puisse avoir la force suffisante pour changer quoi que ce soit. D'abord, il a été indiqué par Dos Santos. Étant indiqué par Dos Santos, il doit obéissance à Dos Santos. Secondo, lui est parti d'un système, le même système qui a pratiqué la corruption pendant toutes ces années, le même système qui a très mal géré le pays. Lui était secrétaire général du MPLAS à l'époque, la deuxième personne la plus importante de leur parti et par conséquent du pays aussi. Dos Santos a fait tout pour avoir des gens de sa confiance dans la direction de l'armée, des services de sécurité, de la police.
Et Dos Santos lui-même est resté à la tête du MPLA, non?
Absolument, il est resté à la tête du MPLA. Au Parlement, la majorité parlementaire n'appartient pas à Lourenço. La majorité appartient au MPLA, donc à Dos Santos. Si, par exemple, Lourenço ne faisait pas ce que Dos Santos voulait, Dos Santos allait prendre des mesures parce que qui soutient Lourenço sur le parti et qui est à la tête du parti, c'est Dos Santos. À moins que, dans un avenir très proche, Dos Santos puisse lâcher le parti et remettre à Lourenço.
Il y a les enfants de Dos Santos aussi qui sont très présents, notamment Isabel Dos Santos et son frère, non?
Oui, non seulement les deux. Presque tous les frères et sœurs sont là. Alors, Est-ce que De Santos va accepter que, compte tenu le combat à la corruption, Lourenço puisse bouger les enfants de De Santos? Certainement pas.
D'autant que l'économie ne va pas très bien parce que le prix du pétrole a baissé de manière dramatique. Quelle est sa marge de manœuvre pour lutter contre la pauvreté et la corruption?
Il est vrai qu'il a une situation économique grave au pays. Il est aussi vrai que la baisse du prix du baril de pétrole a eu un impact négatif. Mais le plus grand impact, c'est la corruption, c'est les vols. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réserve, au moins 3 ou 4 budgets de l'État. Mais l'argent est complètement disparu. L'argent s'est volatilisé comme ça. Alors, dans un pays où les vols se font comme ça, tout le monde vole, tout le monde prend des trucs et tout ça, bon, comment est-il possible qu'on puisse redresser cette économie? Est-ce qu'on est en présence de Gorbatchev? Est-ce qu'on est en présence d'un Frédéric de Clercq comme en Afrique du Sud? Moi, je ne sais pas, voyons voir.
Le député Raoul Danda, vice-président de l'UNITA en Angola.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Congrès américain a appelé Facebook, Twitter et Google à témoigner dans le cadre de l'enquête sur une possible influence russe dans la dernière présidentielle américaine. L'interrogation qui est notamment posée depuis de longs mois est de savoir si les services en ligne proposés par ces géants américains ont pu servir à une campagne d'influence russe pendant la campagne présidentielle ici aux États-Unis. Pourra-t-on enfin avoir des éléments de réponse? C'est la première question que Jacques Aristide a posée à Michael Shurkin, politologue à la RAND Corporation.
Oui et non. Oui, je crois qu'on va avoir des éléments de réponse. Mais non, dans le sens que c'est pas important. Quoi qu'il en soit, les Russes ont réussi à avoir un effet qu'on désirait. C'est-à-dire qu'on a moins de confiance dans les médias, on a moins de confiance en ce qu'ils disent les médias. On a miné la confiance en donnant à tous une raison pour être encore plus soutenus de l'autre côté. Même si Facebook, Twitter, ils sont très transparents, même s'ils dévoient toutes les vérités, et même si ces vérités, enfin, démontrent qu'il n'y avait rien d'important qui s'est passé, on va toujours garder ce sentiment que les Russes, ils ont influencé les choses. Il y a toujours cette histoire de fake news. Et aussi, il faut dire que ce serait impossible de savoir si Google, Facebook et les autres s'ils disent la vérité. Ça, c'est notre problème. On ne peut pas les vérifier.
Facebook est particulièrement concerné par cette enquête. Son fondateur, Mark Zuckerberg, admet avoir sous-estimé l'impact politique des fake news diffusées sur sa plateforme avant le scrutin du 8 novembre dernier. Faut-il s'attendre à d'importants changements au niveau des médias sociaux?
Je ne crois pas que Facebook va faire quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment les instruments, les moyens pour vraiment trier entre les fake news et les actualités vraies. C'est très, très, très difficile et ça devient de plus en plus difficile. D'abord, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les mécanismes, mais aussi parce que, bon, ça n'est pas dans leur intérêt. Ils s'intéressent à faire des profits. C'est un business et c'est normal. Et même aujourd'hui, sur Facebook, j'ai vu un article qui était mis sur Internet par un média qui n'est pas en général connu comme les fake news. Mais en lisant l'article, j'ai pu voir que les titres ne correspondaient pas du tout de contenu. Et en fait, le contenu était des fake news. Et il n'y a pas un moyen pour Facebook de trier entre les fake news comme ça. Tout ce n'est pas noir et blanc.
Mais le rôle des médias sociaux est vu différemment par les partisans des deux grands partis politiques américains, le Parti démocrate et le Parti républicain, n'est-ce pas?
Oui. Tous les deux côtés accusent l'autre d'être coupable de la même chose. Et c'est très difficile à ce point-là d'essayer de faire un trait d'union, de faire que les deux côtés sont d'accord. Et même d'accord sur les faits. Et ça, ça fait très peur. Les faits, les chiffres, les choses qui devraient être hors de discussion, les choses qui ne se donnent pas au débat, maintenant, tout se discute. Je ne sais pas comment on va faire pour corriger ce problème.
Michael Shurkin, politologue à la RAND Corporation, joint à Washington. C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Sims Lumami. Kif Homs était à la console. Présentation John Linden. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.